les ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast.
Salut à tous, c'est Olivier Audoux des Ondes Vocast, c'est le podcast qui parle de radio tous les premiers du mois. Dans cet épisode de février, Julien Vigier viendra nous parler des résultats des derniers sondages radio. On reviendra aussi ensemble sur le changement de présidence au bureau de la radio et sur les auditions en cours au Sénat dans le cadre de la commission sur la concentration des médias. Saison oblige, Julien ira aussi faire un petit tour du côté des stations de radio en montagne avec un ancien animateur de R, la radiostation. Ensuite, on accueillera Rémi Bertolon pour une analyse sur la place des médias traditionnels, dont la radio, dans la campagne présidentielle à venir, notamment vis-à-vis des réseaux sociaux. Dans la deuxième partie entretien, nous irons chez nos amis de RCF. RCF, c'est le réseau de radio chrétienne en France, avec sa tête de réseau basée à Lyon. Je recevrai Philippe Lansac, directeur éditorial Radio Podcast, et Johan Burgan, directeur des systèmes d'information de RCF. Avec eux, nous reviendrons sur ce qu'est le réseau RCF aujourd'hui, comment il fonctionne entre ses radios locales et la tête de réseau, ses valeurs et bien sûr ses innovations, notamment sur le numérique avec le DAB+, mais aussi sur son offre de podcast, dont les podcasts natifs. Des Ondes Vocast, épisode de février, c'est parti.
Des Ondes Vocast, l'actu débat.
Et on accueille Julien Vigier. Salut Julien.
Salut Olivier, salut à toutes et à tous.
Alors Julien, tu es à la tête de VO2X qui fabrique de la radio et des podcasts pour les entreprises. Et comme chaque mois, on va faire un petit tour ensemble de l'actu radio. Alors tout d'abord, on a eu une nouvelle vague de résultats de sondages radio de la part de Médiamétrie. C'est la fameuse EAR pour les mois de novembre-décembre 2021.
Ouais, ce sondage, il est moins attendu souvent que le tout premier de l'année qui donne le ton. Parce que voilà, s'il arrive après l'été, donc il donne le ton à la rentrée, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. Est-ce que quand même cette nouvelle vague va confirmer ce qui s'est passé à la rentrée? C'est ce qu'on va voir.
Alors d'abord, bonne nouvelle, la radio regagne des points de vie.
Oui, c'est le principal enseignement de cette vague. Pas beaucoup, beaucoup, hein, puisqu'on passe de 74,2 à 74,5, mais ça fait quand même plus de 400 000 auditeurs gagnés sur un an. Ouf, ça fait du bien. Alors, dans le détail, à qui profite cette hausse? Sans trop de surprises, aux programmes musicaux. Ils avaient quand même beaucoup, beaucoup baissé, donc c'est pas complètement étonnant de les revoir en légère hausse. Aussi, ça va faire très plaisir à nos auditeurs. Je sais, ce sont souvent des fans de radio et aussi des professionnels de la radio. Les indés radios sont boostés par cette hausse généralisée avec un score de 18 en AC et 15,4 en PDA, ce qui est très puissant.
Eh oui, les gens ont recommencé à prendre la voiture, effectivement. Et dans le top du classement, c'est toujours France Inter qui domine.
Oui, encore, et ça commence à être solide comme place de numéro 1 pour la station du service public, avec ses 12,7 en AC et 13,6 en PDA derrière CRTL du groupe M6, M6 TF1, enfin bref, peut-être la même chose d'ici bientôt quelques mois. En tout cas, avec 11 en AC pour RTL et 13,3 en PDA, c'est quand même une très belle part d'audience pour RTL. L'enjeu, c'est donc en fait la PDA, en réalité, entre ces deux stations, parce que, vous l'avez remarqué, on est quasiment à la même chose, et si RTL arrive à grimper numéro 1 sur cet indice, eh ben ils vont pouvoir communiquer RTL première radio de France. Mais bon, c'est pas le cas en ce moment. Ensuite, France Info est troisième, avec une belle grosse chute quand même, hein, toujours 8,5 en AC, la radio était quand même montée haut, donc c'est normal que ça baisse un peu. RMC reprend des couleurs à 6,1 après une rentrée compliquée, il y a de bonnes audiences notamment chez Estelle Denis. France Bleu est à 6, légèrement à la baisse, voilà, kiff. Europe 1 est à 4,2, toujours en reconstruction. Et France Culture, tu connais ma passion pour cette audience, Olivier, je trouve ça toujours assez incroyable pour une radio aussi élitiste. 3,1 quand même, c'est pas mal.
Et les programmes musicaux, eux, sont en hausse.
Oui, donc avec Fun Radio qui va bien, 4 points en AC, un joli jump avec sans doute les fruits du repositionnement latino de ces derniers mois. Nostalgie cartonne, ça c'est le mot qu'on peut employer, 5,9 en AC, la place de deuxième Morning de France derrière Manu sur Énergie. La radio de la rue Boileau d'ailleurs, qui donc Énergie est à 8,1 en AC. Ça baisse sur un an et sur une vague. Attention, si ça passe en dessous de 8, psychologiquement, ça va laisser des traces quand même. Énergie en dessous de 8, c'est quelque chose. Skyrock, radio urbaine numéro 1 dans le monde, nous sert un joli 6,2 en AC. Et pour les adultes, on a RFM en dessous quand même, hein, de RTL2 qui est à 4. Virgin est à 2,8. Réel souci d'audience au morning notamment. Ça va donc très certainement bouger à la rentrée prochaine.
Et pour nos auditeurs qui sont peu familiers avec les sondages radio, AC, ça veut dire audience cumulée, c'est-à-dire à chaque fois qu'un auditeur a écouté la radio une fois dans la journée. Et la PDA, c'est la part d'audience, qui est pour le coup la part de marché entre les différentes radios. Alors, le mois dernier, Médiamétrie a aussi publié les résultats pour l'Île-de-France sur 4 mois, de septembre à décembre 2021. Quels sont les enseignements de cette vague pour l'Île-de-France ?
Bon, l'Île-de-France, dans l'ensemble, ça baisse sur un an sur la plupart des radios, tant les généralistes que les musicales. Celles qui tirent leur épingle du jeu sur cette vague francilienne sont les locales et les indépendantes, notamment dans le groupe 1980, avec WeFM, Latina et Voltage, qui sont en hausse importante, et ça fait du bien. Seule lanterne rouge dans le groupe, hein, c'est Swig, sous les 1% de AC, donc d'audience cumulée décidément. Changement de nom, changement de format, qui vient d'ailleurs de rechanger, hein, le format est encore changé, ça change tout le temps. Ça marche pas pour Swig, qu'on se le dise. On se souvient quand même qu'à l'époque d'ado, on était au-dessus des 2, on a même été au-dessus des 5-6, mais ça c'est quand même il y a très très longtemps. Enfin, toujours dans l'univers des radios indépendantes, Nova, Chant de France, TFCF Jazz sont elles aussi en hausse sur un an.
Alors Julien, un dernier mot sur les sondages. On n'a pas entendu parler des intermédiaires dans les 10 plus grandes agglos de province. Normalement, ça tombe en janvier. C'est paru ou c'est pas paru ?
Alors, figure-toi que j'ai vu passer quelques posts sur notamment le Facebook de Vincent, qui est l'animateur de Skyrock dans le nord de la France. Et pour lui, c'est toujours un moment important, cet intermédiaire, parce que souvent, Skyrock à Lille, ça cartonne bien, et souvent devant Energy et les locales, donc il s'en fait mention. Et là, il était interrogatif, il laissait sous-entendre qu'il n'y aurait pas d'intermédiaire pour les dix plus grandes villes de France. Et du coup, on a demandé à Médiamétrie, qui nous a dit non, pas de sondage, pas plus d'explications là-dessus. On ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, les 10 plus grandes agglos de province n'ont pas de sondage cette année.
Intéressant. Eh bien, peut-être que c'est un impact de cette nouvelle méthodologie. On essaiera d'en savoir un peu plus auprès de Médiamétrie dans les mois qui viennent.
Alors, c'est ta mission, ça, Olivier, d'essayer d'avoir les réponses que nous, on n'a pas eues de notre côté.
Je vais toujours chercher les réponses où elles sont. À suivre. Alors, Julien, c'est l'hiver. Il y a des vagues de Covid. Mais cette année, les stations de ski sont restées ouvertes. Et Julien, pour nos auditeurs, tu t'es mis dans un télécabine pour interviewer Reda Messaoudi, un ancien animateur du réseau R, la radiostation. On écoute.
Des ondes Vocast.
Ça ne vous aura pas échappé, on est en hiver, alors on a décidé de passer un coup de fil à Reda Messaoudi. Bonjour Reda.
Bonjour Julien.
Alors on va partir en station de ski parce que voilà, c'est l'hiver, toi en ce moment t'es à Toulouse, mais tu as travaillé longtemps aux Arcs, dans les Alpes, et tu as travaillé dans une radio de station de ski pour des ondes Vocast. On avait envie de t'interviewer parce que ça nous intrigue un peu ce fonctionnement. C'était quoi déjà le nom de ta radio dans les Arcs ?
Alors moi, j'ai travaillé pour le réseau de radio R, qui était basé aux Arcs, et en fait, le réseau R est un réseau qui a différents décrochages aux Arcs, à Méribel, à Courchevel, à Tignes. Il y a sans doute d'autres stations que j'oublie aussi, à Valoir, si je dis pas de sottises, il doit y avoir 6 ou 7 décrochages. Et en fait, c'est un réseau de radio à la montagne qui est né sur les cendres des émetteurs d'Europe 2, à l'époque, qui émettaient en décrochage local, et qui ont laissé leur fréquence il y a longtemps, hein, maintenant, il y a presque 15, 20 ans ou 25 ans, je crois. Et donc, de ces fréquences-là, qui étaient des émetteurs qui étaient actifs d'Europe 2, eh bien, toute l'équipe de R, avec en tête Dominique Fortunato et René Orger, ils ont fondé ce réseau de radio à la montagne qui surplombe la vallée de la Tarentaise, puisque c'est la base. Et ça fonctionne tout au long de l'année. Hein. Alors, on parle de radio d'hiver, mais ça fonctionne tout au long de l'année. Mais je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en discuter ensemble.
Bon, la question, Reda, qui me vient tout de suite en tête, c'est ça sert à quoi, en fait, une radio de station de ski ?
Ah, c'est super important, une radio de station de ski, pour faire de la radio depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Je crois que c'est la radio de proximité maximale que j'ai pu pratiquer, que j'ai pu rencontrer. C'est la radio encore plus de proximité qu'une France Bleue, par exemple, parce qu'il faut savoir que les vacanciers payent très cher leurs vacances au ski. Ils ont absolument besoin d'avoir de l'information montagne qui les concerne directement. Le produit d'appel phare, c'est évidemment la météo globale, puisque ça change très très vite en station, météo des neiges et surtout météo des pistes, avec l'ouverture, avec la qualité de la neige, avec les recommandations. Tous les matins, t'as des bulletins d'information météo qui sont très 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 précis. T'as des bulletins d'ouverture et de fermeture des pistes qui se font avec le directeur des pistes de ski. D'ailleurs, il est pas rare que les pisteurs et tout le personnel de la station écoutent sur cette radio-là la météo et l'ouverture et la fermeture des pistes. Donc ça veut dire, et ça nous oblige à avoir une information qui est hyper pointue et très très précise, parce que la météo et les pistes, ce sont des enjeux économiques majeurs pour les radios en montagne, à la fois pour les professionnels et pour les particuliers qui viennent passer des vacances. Et puis, c'est aussi l'occasion avec cette radio-là d'accompagner, de divertir et d'informer tous les vacanciers et même les habitants sur place de tout ce qui peut se passer à la station. Et il se passe souvent beaucoup, beaucoup de choses dans les stations de ski.
C'est peut-être quand même un peu moins vrai aujourd'hui avec tout ce qui est application et Internet, mais ça reste quand même la voie de la station.
Non, je suis moyen d'accord avec toi sur cette question-là parce qu'on a les informations, on va dire, sur ces radios-là de première bourre, en fait, qui nous viennent directement du service des pistes. Et quand t'as le directeur du service des pistes qui t'annonce les ouvertures, les fermetures et les qualités de neige, il prend l'information depuis ses dameurs qui ont travaillé tout au long de la nuit. Et ça, cette information-là, tu l'as nulle part ailleurs qu'à la radio. Ce qui fait que la radio, elle a un taux de pénétration incroyable. Il y a 9 personnes sur 10 qui viennent passer leurs vacances. Moi, je parle pour les ARC qui avaient écouté la radio au moins une fois pendant leur séjour. Ce qui est vraiment incroyable sur une période aussi courte que de réussir à rentrer dans le cœur et dans le foyer des gens. Il y a un très gros morning, 7h30, 10h30, de 3h, qui se fait entièrement direct. Il y a un très gros après-ski à partir de 17h jusqu'à pratiquement 19h30, 20h pour accompagner les gens à la sortie des pistes de ski. Moi, je me souviens qu'à l'époque, c'était il y a un petit moment maintenant, mais je faisais énormément d'antennes, hein, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup le matin, beaucoup le soir. Avec
parce que tu disais que ça fonctionne toute l'année. Du coup, moi, je pensais que ça démarrait genre en novembre et qu'au mois d'avril, c'était fini, quoi.
Non, parce qu'il y a des résidents encore qui habitent là-bas dans la vallée, qui habitent aussi sur les pistes.
C'était pas saisonnier, ce qu'on appelle.
Ah, si, j'étais saisonnier, mais je faisais et l'été et l'hiver, ce qui fait que je passais pratiquement 7 mois et demi de l'année là-bas pour travailler.
T'étais saisonnier, mais à l'année.
Ouais, c'est à peu près, voilà. C'est un peu plus large qu'un saisonnier, comme on peut l'imaginer.
Est-ce que l'animateur de la station, du coup, devient une personnalité, au même titre que les moniteurs, les barman, les patrons de boîte? Est-ce que, indirectement, travailler en station de ski, c'est devenir un peu la star de la station?
Ah, j'ai jamais pu bénéficier d'une telle notoriété de ma vie. Traverser la station de ski qui faisait à peine 2 km de long, je prenais 2h30 en fait. Parce que tous les commerçants, tout le monde avait écouté le morning et tout le monde avait un truc à nous dire sur la matinale qu'on avait faite, une blague, une bêtise, une connerie qu'on avait racontée. Il y a tout le monde qui t'arrêtait parce qu'en fait, tout le monde joue le jeu. La radio R, en fait, on est entre spécialistes de radio, donc on peut se parler de ça. C'est une radio qui fait pas partie du GIE. Donc, il n'y a pas de publicité, de Carrefour, enfin, tout ce que le GIE peut ramener. Donc, toi, tu joues le jeu du local et eux, ils jouent le jeu à mort de la radio parce qu'ils utilisent la radio comme support de communication. Donc, ils jouent vraiment le jeu. Du coup, il y a un truc qui était particulier aux ARC. Et ça datait d'avant déjà. Alors tu vois, c'est une vraie particularité de radio parce que ça existait nulle part ailleurs. Dans toutes les habitations, dans tous les chalets, dans toutes les locations, il y avait des radios intégrées dans les appartements avec une seule radio. C'était R les ARC, justement, la radio station. Et il faut savoir qu'il y a un autre truc aussi, c'est qu'on émettait...
Un peu totalitaire.
Totalement. Et on habitait... Et dans les appartements aussi, à la télévision, sur le canal hertzien, il y a une fréquence hertzienne qui émet la radio, en fait. Donc il y a un espèce de PowerPoint avec quelques trucs.
Ça, quand j'étais en station, c'est assez incroyable.
Et ça aide
un
à être...
Un souvenir particulier, on va terminer là-dessus.
Ouais.
Vraiment, un souvenir qui reflète pour toi ce que c'est que travailler pour une radio de station de ski.
J'en ai deux. Un, la programmation musicale qui était incroyable parce qu'on se permettait d'envoyer des morceaux bien avant que les radios les jouent. Et ça, les gens étaient hyper reconnaissants. C'est-à-dire qu'ils écoutaient des trucs chez nous et quand ils retournaient en ville après les vacances, ils disaient « Ah, mais j'ai déjà entendu ça à ma radio de montagne. » Donc, on avait une grosse latitude. Et puis, un petit souvenir qui était sympathique, c'est que moi, tous les matins, je faisais les infopistes avec le directeur de la station. Et un jour, je me suis perdu sur les pistes de ski entre deux pistes. Et donc, du coup, j'étais obligé d'appeler le service de secours des pistes où tout le monde me connaissait forcément. Ces salopards.
T'a cru, en plus.
Alors, déjà, ils sont foutus de ma gueule. Et en plus, après, ils ont fait un chifoumi pour savoir qui aurait la chance de venir me chercher sur les pistes. Et après, d'ailleurs, je me suis fait charrer, mais pendant des mois. Et je crois que même maintenant, ils se foutent encore de ma gueule d'être venu me chercher sur les pistes.
Merci, Reda, pour ce témoignage. Ça nous a donné envie d'aller au ski.
Ah ouais, grave. Glisser. En plus, il y a de la bonne puff qui est tombée. Et puis, on en a envie. L'année dernière, ils ont pas pu travailler. Donc là, je peux vous assurer que les stations vous accueillent à bras ouverts.
Effectivement, aller skier et écouter R, la radio station, elle est déployée dans pas mal de stations des Alpes, à Méribel, Tignes, La Plagne, Les Arcs, Courchevel, et depuis novembre dernier, une dernière station Virgin Radio a rejoint le réseau R, c'est celle de Val Thorens Les Menuires. Alors, on est déjà en février et la présidentielle arrive à grands pas et on va en parler avec Rémi Bertolon, animateur, voice tracker et podcasteur. Bonjour Rémi.
Salut Olivier, bonjour tout le monde.
À l'approche des présidentielles, Rémi, tu fais un parallèle entre la radio en France et les médias aux États-Unis, avec notamment l'élection de Trump en 2016.
C'est vrai qu'Olivier, on peut se poser des questions. En tout cas, moi, comme souvent, c'est dans ma cuisine en mangeant une salade et j'écoutais la radio américaine. Je crois que c'est Z100, la radio new-yorkaise ou The Vibes of Vegas. Enfin, je sais plus. En tout cas, je me suis dit, est-ce qu'on est dans le même contexte 2016 avec l'élection de Trump? À l'époque, on était, nous, en France, assez stupéfaits de voir cette élection. On nous avait expliqué qu'il y avait des bulles médiatiques aux États-Unis où on pouvait écouter une chaîne de télévision traditionnelle conservateur développer un sujet, puis ensuite enchaîner avec un média radio très conservateur là aussi et toujours les mêmes arguments. Et puis, bien sûr, l'algorithme Facebook qui fait le lien avec tout ça, qui vous donne à liker et à apprécier tout ce que vous aimez. Alors, c'est vrai qu'en 2017, l'année suivante, il y avait eu des élections en France, mais depuis, le contexte a complètement changé. Les gilets jaunes sont apparus, la crise sanitaire, évidemment, hein, la crise économique, et puis les mentalités aussi, hein, les thèses complotistes qui ressortent, certains revendiquent d'être complotistes là aussi, donc il y a eu quand même pas mal de changements.
Mais les médias et la radio en France sont-ils vraiment dans la même situation qu'aux États-Unis ?
J'aurais presque envie de te faire une réponse de politique, je dirais oui et non. D'un point de vue média traditionnel, l'info, elle est plus neutre qu'aux États-Unis, hein, si on prend la radio. RMC, avec son format talk inspiré des US, c'est pas la radio du tout de conservateurs. L'information dans les journaux n'a pas de marqueur. Les débats laissent place, oui, à des points de vue borderline, mais tous les arguments complotistes sont recadrés. Jean-Jacques Bourdin a reçu plusieurs prix hein, de la profession pour ses interviews, ce qui montre une certaine neutralité. Et aussi l'exemple de France Inter avec les humoristes de la station qui ne sont pas en opposition les uns les autres, mais on tape toujours, mine de rien, sur celui qui est au pouvoir. Donc ça semble normal. Les concitoyens ne sont pas pris en tenaille dans des arguments politiques. Donc le problème ne vient pas de ceux qui viennent chercher l'information, mais plutôt de ceux qui ne vont jamais chercher l'information, ceux qui vont picorer uniquement de la musique ou du divertissement. À ce moment-là, ils se retournent vers les réseaux sociaux, et c'est le pixel des réseaux sociaux, le pixel Facebook, qui va déterminer la ligne éditoriale. En plus, avec le télétravail, on se coupe, mine de rien, des discussions, des dialogues, des confrontations d'idées avec les collègues. Donc en cela, effectivement, on se rapproche d'un modèle peut-être américain comme en 2016.
Selon toi, Rémi, où serait la solution ?
Eh bien, tu sais que pour la première fois, je pense que la solution la plus pertinente, elle se retrouve dans les divertissements et les rédactions locales. Ce sont les coé, les difoules, les matinaliers qui devront prendre leurs responsabilités, susciter le débat, l'enrichir. Alors, à leur manière, évidemment, avec de l'humour, un ton léger, mais en avoir conscience. Habituellement, c'est souvent les radios jeunes, hein, à quelques semaines des élections, on invite nos auditeurs à aller voter, ce qui est très bien. Hein. Mais là, les radios adultes aussi devront peut-être aussi envoyer leurs auditeurs voter, ou en tout cas leur soumettre cette idée. Et puis, l'info en local va avoir toute son importance. Les rédacs des régions, alors notamment les indés radios, surtout les indés radios, mais aussi les locales de France Bleu, hein, mais je pense aux indés parce qu'elles ont un public un peu plus jeune. Ça sera donc une façon de sortir le public un peu hermétique à l'information un peu plus longue, un peu traditionnelle, et de susciter le débat, la discussion. L'épisode précédent, tu parlais avec Wilfried Tocqueville en interview, le directeur de Suite FM, et il disait « on ouvre sur du natio dans nos journaux locaux ». Ben, c'est très bien, c'est génial, c'est super. C'est comme ça qu'on arrive à intéresser le public et les auditeurs au débat, aux discussions. Alors juste avant de te laisser, Olivier, je voulais revenir sur le chiffre qui est sorti au niveau de la crédibilité du média radio vis-à-vis des Français. C'est au sein du baromètre La Croix qui est sorti le 20 janvier. Médias confondus, la radio et la presse écrite sont jugés les plus crédibles. Alors, normalement, on est toujours en tête. Là, on fait un jeu égal. Mais on est en baisse au plus bas à la radio hein, depuis 87. Alors pourquoi ? J'ai entendu des experts qui disaient justement bah, c'est la thématisation des stations dans le sens l'orientation des opinions sur certaines radios. Moi, j'y crois pas trop. D'ailleurs, j'en parlais justement tout à l'heure. Je crois plutôt déjà que, bon, on a moins écouté la radio, mine de rien, hein, l'année dernière. Et puis, on a une défiance générale sur les médias populaires. La radio en fait partie. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on est un peu écorné légèrement. Il va falloir tout de même être vigilant sur l'évolution de ce baromètre pour le média radio. À nous d'être constants, Olivier.
Rémi Bertolon, animateur du voice track Rémi et Jam. Julien, retour sur l'actu du mois dernier. On a suivi avec passion ces dernières semaines les auditions de la commission du Sénat consacrée à la concentration des médias en France. Depuis quelques mois, cette commission, présidée par le sénateur Laurent Lafon, interroge les dirigeants de groupes, les directeurs de chaînes, des ministres et tout un tas d'autres acteurs en lien avec les médias.
L'objectif de cette commission, Olivier et chers auditeurs, c'est de se faire une idée de quelles doivent être les futures réglementations pour défendre le pluralisme des médias et notamment de l'information dans un contexte fortement attendu avec la fusion TF1-M6, mais aussi avec notre cher OPA de Vivendi sur la Gardère.
Oui, et le mois dernier, on a entendu des grands capitaines d'industrie, habituellement plutôt rares dans les médias, notamment Vincent Bolloré de Vivendi et Bernard Arnault de LVMH. Tous deux se sont d'ailleurs défendus de tout interventionnisme sur le contenu des journaux, radios ou télé qu'ils possèdent. Forcément, le sujet est sensible à quelques mois de la présidentielle.
Oui, au niveau de la concentration, ces deux patrons suivent la même ligne que celle défendue par TF1-M6. La compétition désormais est internationale, avec des acteurs beaucoup plus gros, style Netflix, etc. Donc un message opposé à celui exprimé par Alain Liberti, président du CIRTI, le syndicat des radios indépendantes, qui réaffirmait quelques jours plus tôt devant cette même commission l'importance de maintenir le seuil anti-concentration de 160 millions d'auditeurs potentiels pour la radio.
Bien, dernière info pour ce mois-ci, une nouvelle dirigeante pour le bureau de la radio. Depuis le 1er janvier, il s'agit de Constance Banquet, présidente de Lagardère News. Elle a pris la tête du syndicat des grandes radios nationales en début d'année et le bureau de la radio, on le rappelle, a une présidence tournante avec un nouveau président tous les ans parmi les quatre grands groupes qu'il représente. Et sans vouloir divulgâcher, c'est-à-dire spoiler en franglais l'épisode du mois prochain, nos auditeurs devront savoir un petit peu plus sur la feuille de route de ce syndicat dans notre prochain numéro.
Bon, que de suspense, mais aussi, il faut dire, on ne pourra plus employer divulgâcher, Olivier, s'il te plaît, vraiment. Hein, voilà.
Spoiler,
c'est quand même beaucoup plus dans l'air du temps. Ok, donc tu gardes divulgâcher et je garde spoiler. Donc pas de spoiler pour l'épisode prochain, mais suspense pour le prochain invité. Donc merci Olivier en tout cas pour ton invitation. Hâte de te retrouver le mois prochain. Là, il y a pas de suspense. Je serai là. Et toi, tu files à Lyon, hein, n'est-ce pas ?
Eh oui, c'est ça. Direction le siège de RCF. Merci à toi, Julien, et à très vite.
Des ondes vocastes, l'invité.
Et on se retrouve donc à Lyon, au siège de RCF, avec deux invités, Philippe Lansac et Johan Burgan. Bonjour.
Bonjour Olivier.
Bonjour Olivier.
Vous êtes respectivement directeur éditorial Radio Podcast et directeur des systèmes d'information de RCF. Alors on commence toujours par cette question, avant de parler de RCF, parlez-nous un petit peu de vos parcours respectifs.
Alors de mon côté, Olivier, moi je viens à la base du milieu du marketing. J'ai fait une école de commerce et puis j'ai démarré dans le marketing pour des constructeurs automobiles en Chine et au Brésil. Et ensuite, à la faveur d'un grand voyage autour du monde, j'ai changé de métier. Je me suis mis à faire du reportage radio et j'ai commencé à produire des reportages pour les ateliers de création de Radio France qui m'ont conduit à rejoindre la grande maison Radio France, en particulier France Inter, comme reporter. J'ai beaucoup travaillé notamment avec Mathieu Vidard. Et puis ensuite un détour par des organisations environnementales. J'ai notamment travaillé comme Greenpeace France. Et puis depuis plus de 12 ans à RCF, j'ai rejoint mes premiers amours de radio. RCF en tant que directeur de la plus grosse radio locale du réseau, qui est celle de Lyon, pendant 7 ans. Et puis ensuite pendant 3 ans directeur de l'animation du réseau RCF et depuis 2 ans directeur éditorial Radio Podcast.
Philippe, merci. Johan.
Alors de mon côté, j'ai fait plus de 15 ans de conseil en informatique dans le monde de la banque et de l'assurance. Et depuis tout petit, j'ai entendu mes parents et particulièrement mon père écouter la radio, les antennes d'RTL, d'Europe 1, des Radio France. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de pouvoir rejoindre RCF et de pouvoir combiner à la fois mon amour de l'informatique et de la technologie et ma passion naissante pour le monde de la radio. Ça fait maintenant un peu plus de 5 ans que je suis chez RCF en tant que directeur du système d'information, donc la responsabilité technique et informatique de l'ensemble du réseau. Et c'est chaque jour une belle découverte du monde de la radio et des contenus que chacun peut produire.
Une vraie passion. Alors, RCF fête ses 40 ans cette année. Ce réseau est né sous le nom de Radio Fourvière en 1982. Il s'est développé, il s'est professionnalisé. Alors, à quoi ressemble RCF aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est RCF ?
Aujourd'hui, si on reprend un peu cette histoire, c'est sympa cette histoire des 40 ans, parce que comme tous, on est né des radios libres en 81, enfin quelques mois après, en avril 82, avec Radio Fourvière. Ce sont, en fait, au moment où toutes les radios se sont lancées, il y a des radios chrétiennes qui se sont lancées un peu partout en France, et puis dès le milieu des années 80, ces années pionnières, ces radios, on se sont dit, il faut qu'on partage des contenus, donc elles ont constitué un réseau de radios qui était Fourvière FM, qui était constitué de 30 radios au milieu des années 90, donc deuxième décennie, un premier réseau qui était Fourvière FM et qui a pris le nom RCF en 96. Et puis ce réseau a doublé de taille, a atteint 60 radios dans les années 2000. Et dans ces années 2000, à partir des années 2010, il y a eu tout un travail sur la marque RCF. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et aujourd'hui, donc, on a 64 radios locales en France et en Belgique, avec des radios qui nous ont rejoints plus récemment, il y a 4 ou 5 ans. Je pense à la radio chrétienne de Marseille, par exemple, qui s'appelait Dialogue, aujourd'hui Dialogue RCF, la radio de Poitiers, la radio de Metz, Radio Jéricho Moselle, et puis une toute dernière née qui est née directement sur le DAB+, qui est RCF Alsace, voilà, et puis aussi en DAB+, une RCF en Belgique, qui est la radio métropolitaine qui couvre toute la Belgique au niveau national, en DAB+, national belge. Voilà, donc c'est 64 radios locales, un réseau, et ce sont aujourd'hui plus de 300 salariés et 3000 bénévoles en France.
Alors on va parler un peu plus du DAB+ un peu plus tard. Alors parlons des programmes. Quelle est la grille type des programmes de RCF et combien d'heures sont faites en local et combien d'heures en national?
Alors le principe, c'est qu'on a 4 heures de programme local, d'information locale dans chacune des radios, et 20 heures de programmes communs nationaux produits par l'équipe commune, donc qui est basée à Lyon mais aussi un petit peu à Paris. Et on est vraiment non pas sur une banque de programmes, mais vraiment sur un réseau avec une grille commune, avec des décrochages communs à la même seconde tous les jours, donc des décrochages locaux qui se situent essentiellement en milieu de journée, 11h-12h30, en fin de journée, 18h-20h30, et puis dans la matinale, qui est une matinale nationale, mais avec des différents inserts locaux, avec des journaux locaux à 7 de 10 minutes, à 7h du matin, à 8h du matin, un invité local à 7h40, des météos. Voilà à peu près comment ça s'organise. En tout cas, c'est vraiment une grille complètement commune, unifiée.
Alors, comment ça se passe concrètement? C'est 64 décrochages simultanés dans les stations, donc j'imagine c'est beaucoup de solutions techniques, mais voilà, comment ça se passe avec de coordonnées 64 radios qui décrochent tout en même temps?
Absolument, on a pendant 6 ans, on a fait un grand projet de standardisation technique du réseau de radio RCF. Aujourd'hui, le réseau de radio RCF, c'est à peu près 1000 ordinateurs, 120 serveurs et un logiciel cœur de métier radio d'automation qui est le même partout, dans les mêmes versions. Chaque studio est numérisé avec des systèmes AXIA. Et de ce fait, en fait, on a la même technologie partout. En ayant la même technologie partout, ça nous a permis de mettre en place des procédures, des processus techniques identiques dans chacune des radios locales. Et de ce fait, aujourd'hui, on a un système quasiment automatique où, en fait, la tête de réseau produit un programme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en fait, les radios locales récupèrent dans leur studio par satellite ce programme. Et dans l'outil de programmation, ils peuvent tout simplement soit mettre des décrochages automatiques, par exemple pour une information locale préenregistrée par rapport à un spot local, ou tout simplement prendre la main pour le live, soit à partir de la console ou soit par l'utilisation du logiciel. De ce fait, la grille est organisée avec certains moments de décrochage, avec un petit sonal de sortie et d'entrée, qui permet de garder une cohérence à l'antenne. Et d'un point de vue technologique, en fait, c'est un décrochage de source. Soit je suis sur la source qui est ma console d'antenne, soit ma source qui est un automate si c'est quelque chose qui est diffusé automatiquement, soit ma source qui est le programme national réceptionné sur le satellite.
Et on va d'ailleurs écouter un extrait de la matinale de RCF.
Action locale de RCF qui vont vous accompagner dans moins d'une minute. Vous écoutez RCF, il est 7h. Et à la une, tout augmente, sauf nos salaires. Plusieurs dizaines de milliers d'employés du privé, fonctionnaires, retraités ou lycéens ont manifesté hier en France pour réclamer des hausses de salaires dans un contexte de retour en force de la question du pouvoir d'achat. Le tout à quelques semaines de l'élection présidentielle. Dan n'a pas pu identifier les responsables, mais souligne les zones d'ombre dans les explications du Bélarus. Tout de suite, l'info continue.
Bonjour à
à tous. Trois titres à la une de l'actualité près de chez vous dans le Finistère. Et d'abord, le retour à la normale est prévu dans le courant de la semaine prochaine pour les transports en commun à Brest. Une réunion a eu lieu hier entre les syndicats de Bibus et la direction. À suivre également dans ce journal.
Alors, dans ce grand projet de déploiement, comment s'est passée justement cette transition vers le numérique en région? Et de manière générale, même maintenant que ces solutions sont déjà déployées, comment se passe la formation des personnels en région?
L'enjeu de ce projet, c'était de pouvoir mutualiser notre technologie pour faciliter justement notre organisation interne. Et le deuxième point important de ce projet, c'était qu'en standardisant, on pouvait le faire évoluer pour tout le monde de façon régulière et rapide. En fait, le passage de l'analogique au numérique a transformé la technologie. On passe dans le monde de l'informatique, et dit informatique dit infogérance, c'est-à-dire qu'on peut prendre la main à distance pour piloter la technologie et les faire évoluer. Donc en fait, cette standardisation nous a permis de mettre en place des nouveaux outils, et en fait ces nouveaux outils, on les fait évoluer constamment. On fait 2 mises à jour par exemple de notre logiciel d'automation par an, ce qui nous permet en fait de rajouter des fonctionnalités, et c'est un accompagnement au quotidien. Et en fait, cet accompagnement, il est important parce que le réseau RCF, c'est quand même 3000 bénévoles, donc on a quand même pas mal de turnover dans les radios locales pour la production avec des bénévoles, donc il faut les accompagner. Et l'accompagnement, en fait, l'idée, c'est de se dire, faisons des outils simples, facilement, une prise en main très facile, avec une ergonomie que tout le monde peut comprendre. Et en fait, ce socle technologique, on le fait évoluer. Et aujourd'hui, par exemple, on tend vers la mise en place de studios virtualisés avec un écran tactile qui remplace la console. Et puis derrière, des traitements automatiques pour faire du mixage de voix ou des traitements de voix. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, simplifions l'autoproduction pour qu'il y ait un maximum de bénévoles qui puissent produire des émissions en toute autonomie, ce qui nous permet derrière d'avoir un programme riche en proximité. Et cet accompagnement se fait aujourd'hui avec les techniciens du réseau de radio RCF.
D'accord. Et du coup, il y a un support qui est disponible depuis Lyon en cas de souci.
Voilà. Donc, dans les équipes de la DSI centrale, on fait à la fois l'infogérance, la maintenance du parc informatique avec des relais régionaux pour tout ce qui est mise à jour des systèmes techniques, hein, aussi bien radio que les serveurs et les ordinateurs. Et puis aussi, on accompagne sur des logiciels du quotidien, hein, pour faire de la gestion plus administrative. Et on a un point de support, un numéro interne qui peut être appelé par tous les collaborateurs bénévoles salariés RCF avec une équipe qui répond derrière et qui soit accompagne sur la prise en main des outils, soit traite les problèmes techniques qu'on pourrait avoir, que ce soit des anomalies ou des pannes matériel.
Alors Philippe, pour revenir un petit peu sur la partie contenu, donc RCF, c'est un réseau de radios chrétiennes. Elles sont réunies depuis déjà pas mal d'années sous un slogan qui est « La joie se partage ». Est-ce que RCF, tout comme les valeurs de la foi chrétienne, se doit de répondre aux anxiétés du monde moderne? C'est ça le message?
C'est un vrai enjeu. En fait, quand on a lancé la joie se partage, c'était il y a c'était exactement il y a 7 ans, c'était en janvier 2015. C'était un vrai parti pris inspiré de l'espérance chrétienne, qui est de dire ce que recherche tout un chacun, qu'il soit chrétien ou pas, c'est la joie, c'est la joie profonde, c'est la joie de vivre. Et donc c'est le choix qu'on a fait, notre promesse auditeur sur lequel on a travaillé fortement à ce moment-là. C'est une radio qui m'aide à mieux comprendre et aimer ce monde pour partager la joie de vivre. Et de croire, si je crois. Voilà. Et donc oui, on voit bien notre monde a des difficultés, notre monde a des angoisses, a des violences, et on sent une aspiration très très forte des gens à trouver une paix intérieure, à partager aussi des bonnes idées, des bonnes initiatives, de regarder le monde tel qu'il est, mais de avec cette espérance chevillée au corps, d'essayer de porter un regard d'espérance sur ce monde pour construire ce monde d'après, dont on parle tant d'ailleurs en ce moment avec la pandémie. Et donc c'est au cœur de notre ligne éditoriale, de notre projet éditorial. On a même cette année même travaillé fortement sur notre raison d'être. C'est très à la mode dans beaucoup d'organisations, dans beaucoup d'entreprises. Et cette raison d'être, on s'est dit à quoi on veut répondre. Et on s'est dit, notre raison d'être pour un média comme RCF, c'est de partager la joie de s'ouvrir à l'autre, au monde, à Dieu, à la dimension spirituelle qui est essentielle à tout homme, qu'on soit croyant ou pas, et ce, pour devenir tous acteurs de fraternité. Voilà, un média qui se donne pour objectif d'inviter tout le monde à devenir acteur de fraternité dans notre monde très cloisonné, dans notre société très fracturée, ce qui crée beaucoup d'anxiété. On se dit que la fraternité est un enjeu majeur. C'est quelque chose de commun entre ce qui est affiché sur les frontons de notre République, liberté, égalité, fraternité. Mais bien sûr, la fraternité, c'est au cœur de la vision chrétienne de l'homme. Voilà, son prochain, l'autre. Et donc oui, avec notre projet éditorial, avec notre ligne éditoriale, on essaie humblement, dans la manière dont on interview, dans la manière dont on fait des reportages, des dossiers, dans la manière dont on donne la parole, d'aider chacun à cheminer et potentiellement de trouver la joie au milieu de ce monde anxiogène. Voilà.
Et pour atteindre ces objectifs, d'ailleurs, votre organisation interne aussi s'est adaptée à ça. Vous avez réorganiser vos départements en trois piliers, un qui est la radio traditionnelle, la radio live, deuxièmement les podcasts, et aussi un troisième pilier qui s'appelle les rencontres. Est-ce que Philippe, tu peux nous expliquer quels sont ces trois piliers dans la stratégie de RCF?
C'est vrai qu'on partant de cette raison d'être, on s'est dit comment on l'incarne, cette raison d'être, au milieu de ce monde qui est en pleine mutation, une mutation digitale en particulier, que tous les médias et toutes les entreprises connaissent. Et on s'est dit, c'est quoi notre vision de notre manière d'être dans ce monde digital, basé sur notre raison d'être, basé sur la fraternité. Et donc on s'est dit, RCF aujourd'hui doit être plus qu'une radio, une radio du flux. Il faut qu'elle continue à l'être, parce qu'on a besoin de la radio en direct, de la radio interactive, de la radio incarnée, tout ce qui fait la magie de la radio, qui existe depuis le départ, et qui arrive à mobiliser d'ailleurs, à créer de l'engagement. Vous savez, cette année-là, on célèbre les 15 ans de la mort de l'abbé Pierre, on se rappelle de l'appel du 1er février 54 de l'abbé Pierre, qui a mis en mouvement plein de gens. Ça, c'est la puissance de la radio en direct, et ça, il faut qu'on la maintienne. Mais au-delà de ça, on s'est dit qu'RCF, dans ce monde digitalisé, dans ce monde délinéarisé, doit être aussi une offre de podcasts particulière dans un certain nombre de champs, certes l'actualité, mais aussi ce qui fait notre éditorialité, donc des podcasts dans le champ spirituel, chrétien, dans le champ de la culture, dans le champ de la psychologie, aussi de la vie intérieure, et aussi dans un champ très fort sur lequel on se mobilise beaucoup depuis 2 ans. On a créé une rédaction en chef dédiée à cela, sur le champ de l'écologie, dans l'écologie au sens intégral du terme, c'est-à-dire l'environnement, mais aussi l'écologie humaine, avec dans toute sa dimension sociale. Donc une offre de podcast en plus de la radio, et puis effectivement, troisième pilier, une offre de rencontres, parce que dans ce monde digital, on se dit que les gens ont besoin, et l'expriment fortement, le besoin de se rencontrer en vrai. Arrêter de se parler par les réseaux sociaux avec tous les travers de violence verbale que ça peut avoir, se rencontrer en vrai, se parler, débattre, réfléchir ensemble, rien de tel que la rencontre physique pour se déplacer, pour chacun évoluer. Et donc on se dit que cette rencontre physique, qui plus est pour une radio comme la nôtre, qui est une radio enracinée dans les territoires avec 64 stations locales, cette rencontre physique dans notre monde très digitalisé est quelque chose d'essentiel.
Et on va écouter tout de suite un extrait de ce podcast consacré à l'abbé Pierre.
Soyez des hommes patients et en même temps des hommes qui ont brûlant en eux la colère de l'amour.
Travaillez, travaillez dur, au maximum de ce que vous êtes capable.
Dieu n'est pas une théorie, une abstraction, une idée, un système. Il est l'amour en acte, ou alors il n'est pas.
Mais est-ce que tu es sûr que cette période pendant laquelle tu vas te trouver pris dans un groupe, est-ce que tu es bien sûr que tu en sortiras en ayant sauvé ton idéal?
Bientôt, le grand nombre ne connaît plus que ce qui lui est débité, monnayé, à bon marché, dans une sorte de gâchis, de sabotage de ce qui est la grandeur de la connaissance.
Jésus a fondé une communauté, l'Église, avec des petits, des pauvres, à la vie d'amour desquels il invite les riches à venir participer et s'associer.
Philippe, tu peux nous parler un petit peu de ce podcast consacré à l'abbé Pierre?
Alors, ce podcast, il s'appelle « Les colères de l'abbé Pierre », parce que cette année, on fête les 15 ans de la disparition de l'abbé Pierre. Et on a une de nos journalistes de RCF à Lille qui a fouillé dans les archives nationales du travail où sont conservées les archives sonores d'Emmaüs et donc de l'abbé Pierre et aller chercher des pépites de extraits, de discours, de conférences, d'interventions de l'abbé Pierre, donc une douzaine d'extraits de 2 à 3 minutes où on entend l'abbé Pierre et sa capacité à s'indigner face à la pauvreté de ce monde, face aux inégalités dans ce monde et qui bouscule. C'était, on le sait, la puissance de l'abbé Pierre et aujourd'hui, ses interventions n'ont pas pris une ride par rapport aux défis du monde d'aujourd'hui. Et donc, on a souhaité mettre en lumière ces colères, j'ai envie de dire, ces saintes colères de l'abbé Pierre qui nous remue et je pense nous donne des pistes et notamment aux jeunes d'aujourd'hui quant à la manière de construire le monde d'après. Et en ce sens, d'ailleurs, on a décidé de diffuser ces extraits de l'abbé Pierre sous un instru hip-hop, de rap. Voilà, cette musique qui parle aux jeunes, cette musique qui vient de la rue, comme était l'abbé Pierre avec les compagnons d'Emmaüs. Et donc, nous lançons ce podcast le 1er février.
Alors, tu as parlé des podcasts, Philippe. Donc tous ces podcasts et aussi les émissions de la radio sont en réécoute sur le site internet de RCF. Après quelques écoutes, le site internet demande de se créer un compte personnel. Est-ce vraiment un besoin de devoir identifier l'auditeur et de collecter des données pour pouvoir offrir cette écoute au plus grand nombre?
Alors l'idée, c'est que RCF reste sur son modèle de départ, c'est-à-dire que tous les contenus sont gratuits. La radio FM, depuis le départ, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde et nous avons fait le choix, et nous faisons le choix, que tous nos contenus restent accessibles gratuitement pour tout le monde. En revanche, ce qui est sûr, c'est que nous, on a un modèle un peu particulier dans le champ des médias. On est le plus grand réseau de radio associatif de France. Et notre modèle économique est basé en grande partie sur le don des auditeurs. Nous sommes un réseau d'associations d'intérêt général. Et donc, nos auditeurs sont non seulement auditeurs, mais ils sont contributeurs. C'est un peu nos actionnaires à nous. Plein de petits actionnaires, plus de 60 000 donateurs en France qui soutiennent cette radio, qui soutiennent ce projet éditorial. Et donc, pour aujourd'hui, on a un auditeur sur 10 hein, qui donne à RCF et on a besoin de développer ce qu'on appelle le marketing direct, notre collecte de dons. Et pour cela, on a besoin de prospecter, de pouvoir écrire aux gens, de pouvoir les contacter. On perd, comme toute association, 25% de nos donateurs chaque année, donc il faut prospecter. Et donc, on propose aux internautes d'un crédit de 6 écoutes de plus d'une minute par mois, qui est renouvelé chaque mois, que s'ils veulent avoir accès à tout le catalogue de réécoutes, de podcasts de RCF, de s'inscrire, de créer un espace perso, et là ils ont un accès à tout, et on a donc leurs coordonnées mail et postales pour au besoin les solliciter, les inviter à devenir aussi donateurs demain pour financer la suite de l'aventure RCF.
D'accord. En complément de Philippe, créer son compte, ce n'est pas que pour la prospection, c'est qu'on a aussi un ensemble de services. À partir du moment où on crée son compte, eh ben on peut avoir des émissions favorites et du coup recevoir les émissions favorites à chaque nouvelle diffusion. On peut aussi écouter un podcast ou une réécoute d'émission et la retrouver soit dans son site internet sur un autre navigateur, soit dans l'application mobile. Pouvoir reprendre la lecture là où on l'avait laissé. L'idée, c'est de proposer aussi ces services qui permettent de continuer l'écoute, un peu comme le font les grandes plateformes de streaming, pour faciliter en fait l'écoute et retrouver les informations liées au podcast. Et le dernier point, c'est qu'en fait, on est en train de travailler aussi un peu sur la personnalisation. L'enjeu pour nous aussi, c'est de se dire, quelqu'un qui écoute des émissions plus orientées sur l'écologie intégrale, eh ben, l'idée, ça sera de lui personnaliser son accueil avec les dernières news autour de l'écologie intégrale ou lors du newsletter spécifique sur le sujet.
J'abonde et je complète ce que dit Johan sur cet enjeu de personnalisation qui est hyper important dans le monde digital. C'est vrai qu'on souhaite développer ces services personnalisés pour nos auditeurs parce que aujourd'hui nos 3 millions d'auditeurs mensuels sur la FM, 650 000 quotidiens, il faut savoir, vous le savez peut-être pas Olivier, c'est que par rapport à l'identité d'RCF Radio Chrétienne, il y a 50% de ces 3 millions d'auditeurs mensuels qui ne mettent jamais les pieds dans une église ou un temple, parce que RCF RCF et te communique. Et donc il y a RCF est une radio généraliste, mais donc il y a une pluralité extrêmement forte de nos auditeurs qu'on a et qu'on maintient sur la radio de flux, sur la radio FM et DAB. Mais avec le digital, bah, on peut proposer, suivant le profil des auditeurs, plein de contenus éditoriaux très différents. Et donc on a avec l'idée avec cet espace personnel, l'idée de s'inscrire dans un espace personnel, c'est aussi d'évoquer ses goûts, à quoi s'intéresse, qu'est-ce que c'est plutôt des émissions culturelles, est-ce que c'est plutôt de l'actu, est-ce que c'est plutôt des émissions spirituelles, est-ce que c'est des émissions plutôt écolo. Et donc là, on va pouvoir proposer des contenus différenciés, des newsletters différenciés. Bref, on a plein de projets pour effectivement pouvoir personnaliser beaucoup plus l'offre de contenu pour nos auditeurs.
Alors, on a évoqué un petit peu l'aspect financement, le fait que les dons des auditeurs étaient très importants. Philippe, tu me disais pendant la préparation de cet entretien que cela représentait 40% du budget de RCF. Quel est le reste des 60%?
Ben donc le reste, c'est un tiers, donc 30% qui viennent des diocèses de France, des différentes diocèses en France. Il y a 15% qui vient du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Et puis, les 15% qui restent, ce sont du mécénat et aussi des partenariats, du partenariat, essentiellement du partenariat d'intérêt général, étant entendu qu'en tant que radio de catégorie A, on a la possibilité d'avoir 20% de notre chiffre d'affaires lié à du partenariat ou de la publicité. Il y a très très peu de publicité sur RCF. En revanche, on a effectivement des partenariats éditoriaux d'intérêt général à hauteur d'une dizaine de pourcents de nos revenus.
Alors, la diffusion de la radio se transforme. Jusqu'à pendant 40 ans, les radios ont diffusé en FM, et depuis quelques années, une nouvelle technologie arrive, ça s'appelle le DAB+, c'est la radio numérique terrestre, toujours diffusée sur les ondes. Donc beaucoup de radios ont commencé à émettre dans plusieurs régions en France. Pourquoi est-ce important pour RCF d'être présent sur le DAB+?
Le DAB+, pour nous, c'est l'avenir. La radio, c'est la diffusion hertzienne, anonyme et gratuite. Aujourd'hui, c'est la FM, demain, ce sera le DAB+. Ça sera la diffusion de la radio hertzienne, gratuite et anonyme, en qualité numérique, avec la possibilité de passer quelques informations, ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire la pochette de l'émission ou de l'album et le titre de l'émission ou de l'artiste ou de l'invité. Et pour nous, en fait, c'est essentiel parce que, en fait, c'est continuer dans notre stratégie radio podcast rencontre, c'est de continuer à diffuser la radio, à être présent en proximité auprès de tout le monde, en direct et dans une qualité de programme digital, une qualité de son au top.
Et pour expliquer à nos auditeurs qui sont pas tous experts, il y a deux types de zones de diffusion. Il y a les zones locales qui sont la taille des agglomérations et des zones étendues qui sont plus à la taille de la taille des régions. Pourquoi RCF a choisi de postuler sur une diffusion à échelle régionale, sur les multiplexes étendus? Pourquoi ce choix, sachant que les radios ont plutôt des dimensions plus locales en FM?
Alors nos radios ont une dimension, pour ainsi dire, plutôt départementale, en fait. C'est-à-dire que chaque radio locale, en général, a 5, 6, 7 émetteurs qui émettent sur un département. Vous savez qu'en France, d'ailleurs, nos radios étant aussi liées aux diocèses, les diocèses et les départements, c'est souvent à peu près la même chose. Donc nos radios, plus que des radios locales centrées sur une ville, sont en général départementales. Or, les allotissements qui ont été construits, les allotissements posés par le CSA étaient soit des allotissements très très locaux, soit étendus, qui en général sont bi- ou tri-départementaux. Voilà. Et donc ces allotissements étendus, de fait, correspondaient plus à la réalité de RCF, étant entendu par ailleurs que les radios RCF travaillent beaucoup ensemble, et nous croyons fait aussi dans l'information de proximité, notamment pour les auditeurs qui nous écoutent en voiture. 60% de nos auditeurs nous écoutent en voiture, en se déplaçant, ils se déplacent d'un département à l'autre pour travailler, etc. Et donc, il nous semblait plus adapté par rapport à ce qu'est la réalité des RCF de proposer ces plaques étendues, et pour permettre aussi la continuité de l'écoute de RCF quand on est en transport. Et donc c'est pour ça que notre stratégie a été de postuler plutôt sur les allotissements, enfin complètement d'ailleurs, sur les allotissements étendus, et aujourd'hui on a répondu à plus de 26 appels sur les étendus qu'on a à 99% que le CSA a reconnu et nous a donné l'autorisation sur ces 26 allotissements.
Et Johan, tu me disais aussi que émettre sur les multiplexes étendus, c'est aussi une façon de mailler le territoire, notamment bah, les villes, mais pas seulement que les villes et les campagnes et les territoires plus ruraux.
Absolument. En fait, notre objectif, c'est de parler à tout le monde. La proximité, elle n'est pas que dans les villes. Pour nous, la proximité, elle est dans les villes et le territoire rural. Donc, c'est pour ça que notre stratégie, c'est aussi les multiplexes étendus. Parce que le message et l'accompagnement que l'on souhaite porter à travers notre programme radio, on veut qu'il s'adresse au plus grand nombre. Et pour ça, il faut diffuser au plus large. Et c'est pour ça qu'on est présent aussi dans les campagnes en proximité de tout le monde.
Et un dernier mot pour conclure cet entretien. Johan, tu me disais que le grand chantier numérique à venir, c'est la présence sur le cloud.
Absolument, le numérique, on en a déjà largement parlé ensemble, le numérique pour mettre la présence de nos contenus dans l'écosystème digital, le web, les agrégateurs de podcasts, être présent dans les enceintes, dans les boîtes mail, par les newsletters, mais le numérique c'est aussi une manière de produire aujourd'hui et de diffuser, et en fait aujourd'hui on a fait un gros travail pour mettre en place la même technologie radio dans toutes les radios locales. L'étape d'après, c'est le cloud. Pourquoi c'est le cloud? Tout simplement qu'on a un enjeu de proximité. Et la proximité, elle, c'est d'être au plus près des gens. Et pour ça, il faut qu'on puisse produire et diffuser de n'importe où. Et les technologies en mode cloud, avec des interfaces web, permettent à la fois de faire de l'ubiquité, c'est-à-dire être partout pour pouvoir faire un programme et le diffuser. Et en même temps, c'est des interfaces qui sont accessibles et simples pour tout le monde. Et l'enjeu pour nous, c'est aussi toujours de faire en sorte que nos bénévoles, que nos salariés puissent trouver des interfaces simples à prendre en main pour pouvoir faire un enregistrement, un montage de son, une programmation. Et je dois avouer que on a la chance d'avoir un bon partenaire technique avec David System qui, en fait, fait évoluer le produit dans ce sens. Et ça annonce demain la force d'un réseau de radio mutualisé autour de la technique avec un point dans le cloud qui va être aussi sécurisé. On n'en a pas parlé, mais la cybersécurité, c'est l'une de mes préoccupations en tant que responsable technique. Et en fait, en ayant un point central, ça nous permet à la fois de le protéger, de le dupliquer pour être sûr que s'il en panne, il y a un backup. Et puis en même temps, ça va permettre de déployer encore plus rapidement des nouveaux outils pour pouvoir produire et diffuser nos programmes radio.
Très bien. Philippe Lansac, directeur éditorial radio podcast de RCF, et Johan Burgan, directeur des systèmes d'information de RCF. Merci à vous deux.
Merci Olivier.
Merci Olivier.
Et nous invitons tous nos auditeurs à écouter RCF près de chez vous et aussi en ligne sur rcf.fr.
Des ondes vocastes, l'univers de la radio en podcast.
Et des ondes vocastes, c'est terminé pour ce mois-ci. C'était Olivier Audoux au micro. Le mois prochain, on ira faire un tour auprès des grands groupes nationaux privés avec une invitée exceptionnelle. On ne vous en dit pas plus. Rendez-vous le 1er mars. Salut.
Des ondes vocastes.